Merci encore aux musiciens de nous avoir conduits dans ce moment. Depuis le début de l'année, nous regardons un peu la Bible et nous essayons de nous motiver à sa lecture et bien sûr à croire dans cette Bible, mais en se disant qu'en 2025, est-ce que la Bible ne serait-ce pas un livre démodé? Pour plusieurs raisons, nous avons survolé un peu cette expo faite pour les jeunes. Est-ce que la Bible est un livre de fake news, donc un problème de fiabilité dans les textes? Est-ce que la Bible est contre la science? Et est-ce que la Bible n'est pas une chose raisonnable de nos jours? Donc nous avons abordé un peu ces différentes objections et blocages qu'on peut avoir. Mais à l'époque du scrolling et du streaming, je pense qu'un blocage majeur pour la Bible n'est pas tant les arguments concernant sa fiabilité, ses origines, la présence des prophéties, des miracles, mais tout simplement beaucoup de jeunes et de moins jeunes se disent que c'est un livre ennuyeux. Qui va s'asseoir avec ce gros pavé et lire ? Surtout quand je peux passer 30 minutes sur TikTok et Instagram et m'irriguer le cerveau. Ou bien vous avez essayé, vous dites, bon, les chrétiens doivent lire la Bible, je vais lire la Bible, donc vous ouvrez votre Bible et vous êtes tombé sur un passage comme celui-ci, qui sera mon texte ce matin, 1 Chronique 26, 1 à 5. Voici les classes des portiers, des Coréites, Meshelemia, fils de Corée, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Meshalemia, Zacharie le premier-né, Jediael le second, Zebadia le troisième, Jatniel le quatrième, Elam le cinquième, Jokanan le sixième, Eljoenaï le septième, fils d'Obed-Edom, Shemaja le premier-né, Josabal le second, Joach le troisième, Sakar le quatrième, Netanaël le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. Voilà, 1 Chronique 26, 1 à 5. Et c'est vrai que tout le chapitre comme ça, le chapitre suivant est comme ça, le chapitre précédent est comme ça. Et vous dites, voilà, ça c'est la Bible. J'ai essayé, mais franchement, c'est ennuyeux, c'est compliqué, ça n'a rien à voir avec ma vie, je ne comprends pas ces noms. Voilà, c'est vrai qu'il y a des textes comme ça dans la Bible, mais j'aimerais vous convaincre ce matin que la Bible n'est pas un livre ennuyeux. Au contraire, pour trois raisons. Tout d'abord, la Bible est remplie d'histoires passionnantes. Ensuite, la Bible est l'inspiration principale des plus grandes œuvres d'art. Et enfin, la Bible raconte l'ultime histoire d'amour. Et tout ça, c'est pas ennuyeux. Donc la Bible, j'aimerais vous montrer d'abord, est remplie d'histoires passionnantes. C'est vrai que peut-être vous abordez la Bible comme ce roi dans le livre d'Esther, donc c'est l'histoire d'Esther, Esther 6.1, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Donc ces chroniques perses ne sont pas les mêmes que les chroniques que je viens de vous lire, mais on comprend que c'est un peu pareil. Lui, il n'arrive pas à dormir, donc il dit, amène-moi les archives, quoi, les comptes rendus de... gouvernemental, lisez-les-moi, comme ça je peux me rendormir. Et pour beaucoup, la Bible, c'est bien pour s'endormir. C'est un peu comme lire le journal officiel de la République française ou un compte-rendu d'Assemblée générale. On se dit, c'est bien, c'est nécessaire, ou même un devoir d'école, je dois faire mon devoir, donc je le lis, mais par devoir, mais je vais m'endormir immédiatement. Et pour beaucoup, c'est ça la Bible. Mais détrompez-vous. La Bible est remplie d'histoires passionnantes, à commencer par celle d'Esther. Hein. Esther, tout le livre d'Esther est une histoire passionnante. La Bible est remplie d'histoires passionnantes, des histoires d'intrigues à la cour, de meurtres, de trahisons, d'adultères, de naufrages, de duels de magiciens, de chevaliers, des courses de chars, des scènes de carnage violentes, des scènes bucoliques paisibles. Il y a des espions, des fratricides, des défenestrations, des pendaisons, des évasions de prison, des morts revenant à la vie. Ça parle de la montée et de la chute des empires. Ça parle de la sexualité sensuelle, des concours de beauté, des festins somptueux. En plus, on y trouve des ânes qui parlent, des cochons qui se noient, des renards qui s'enflamment, des ours qui déchirent des groupes de jeunes, des lions qui mangent des prophètes, et tout aussi passionnant, des lions affamés qui ne mangent pas des prophètes. Ça, c'est la Bible. Et c'est même un trait unique de la Bible, c'est qu'elle contient autant d'histoires passionnantes. Si on compare la Bible avec d'autres textes sacrés, on s'aperçoit que la majorité des autres textes sont principalement des phrases, des proverbes, des sentences, des règles de vie, des oracles du fondateur. Regardez le Coran, regardez les textes hindous, c'est bouddhistes, c'est rien à voir avec la Bible. Par contre, la grosse partie de la Bible, c'est du récit historique, une narration des événements. Bien sûr, cela est complété avec un enseignement à retenir, une démarche que Dieu attend de nous, mais cela est déjà très différent des autres écrits sacrés. Et c'est ça que je trouve passionnant dans la Bible. Il y a plein d'histoires qui racontent surtout ce que Dieu a fait dans le passé, les choses merveilleuses que Dieu a fait, que Dieu a faites. Et nous lisons ça. La Bible, c'est surtout des faits historiques, c'est surtout l'histoire et beaucoup moins juste des conseils de vie. Alors c'est sûr, je reconnais, il y a des passages plus laborieux que d'autres dans la Bible. Les dénombrements, les généalogies, les descriptions détaillées de tel ou tel temple, dans le culte, donc il y a des sacrifices, ou il y a des dimensions de la construction, des détails des fois qui reviennent, qui sont étalés en long et en large. Qu'en penser, qu'en faire de ces passages? Vous savez, dans Les Misérables de Victor Hugo, il y a tout un livre, 6 chapitres même, il y a tout un livre sur les égouts de Paris, qui s'appelle L'intestin du Léviathan. Alors, si je relis Les Misérables, j'ai tendance à sauter des chapitres sur les égouts. Mais il faut savoir que le dénouement de l'histoire des Misérables se passe dans les égouts de Paris. Et donc, en ayant lu les descriptions un peu détaillées des égouts, qui, d'ailleurs, il fait ça très bien, après, vous appréciez mieux le dénouement de l'histoire. Et c'est pareil aussi dans la Bible. En fait, ces détails sur les sacrifices, ou le temple, ou le tabernacle, ou les généalogies, ou les dénombrements, ils nous préparent à mieux comprendre par la suite le dénouement de l'histoire. Je reviens à notre texte dans 1 Chronique. J'ai lu 1 Chronique 26. Ça parle des portiers, donc c'est cette classe des Lévites, les fils de Corée, et puis les fils d'Asaph en particulier, qui ont ce rôle de portiers, c'est-à-dire ils sont gardiens des portes du temple. Et donc là, on décrit la liste en 1 Corinthiens 1, Chronique 26, décrit les fonctionnaires du temple, et là, on a lu ce qu'on a lu, c'est les portiers. Donc c'est particulier, avec tous ces noms, et c'était la famille, la fils des Corinthes, et les fils d'Asaph avaient ce rôle de portier. Alors là, quand on lit ça en 1 Chronique 26, on dit que ce n'est pas très intéressant. Mais même dans un tel texte, il y a des pépites passionnantes. 1 Chronique 26, donc il y a cette famille d'Ebed-Edom, et il a 8 enfants. Et le verset dit « Car Dieu l'avait béni ». Donc déjà, pour les familles de cette église qui ont 8 enfants en plus, il y a une bénédiction réservée, une bénédiction qui apparaît. Mais allons plus loin que ça. Les fils d'Asaph vont apparaître plus tard dans l'histoire biblique, et c'est eux notamment qui vont écrire certains psaumes, et notamment le psaume 84, vous allez dire ça le 25 avril, je crois, mais il y a ce beau verset, peut-être vous connaissez, psaume 84, 10. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Il faut savoir que le psaume 84 a été écrit par un des fils d'Asaph. Les fils d'Asaph, décrits comme des portiers en 1 Chronique 26. Donc là, on comprend déjà une richesse qui s'agrandit là. Ce verset, c'est beau pour un portier de dire « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » On se met un peu à la place de ces portiers. Eux-mêmes n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Ce n'était pas cette classe de Lévites, des sacrificateurs, mais ils veillaient et déjà, ils se réjouissent de pouvoir être dans les parvis, d'être près de Dieu. Et donc, ils se sont privilégiés par sa position de portier. Et ils nous laissent une vérité merveilleuse que nous chantons encore aujourd'hui. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mais ça, ce n'est pas encore le dénouement de toute l'histoire biblique. Donc, on a des portiers, on a cette bénédiction, ça nous aide à mieux comprendre les psaumes. Mais puis, un jour, on va apprendre que ce temple, ce voile va se déchirer. Et finalement, nous tous, il n'y a plus des classes, des fonctions différentes parmi le peuple de Dieu. Quelque part, nous avons tous accès, nous pouvons tous entrer. Il n'y a plus besoin de portiers qui ferme l'accès à des personnes, mais nous devenons en quelque sorte tous des portiers, tous des sacrificateurs, nous devenons même le temple, nous devenons la demeure agréable de Dieu. Et voilà, et ça c'est la grande histoire de la Bible. Donc tous ces détails nous aident à comprendre mieux le dénouement, même ces passages un peu laborieux comme dans les chroniques. Prenez le cas par exemple de l'affichage des horaires en gare. L'affichage des horaires SNCF. Est-ce que c'est une lecture passionnante? Si vous allez à la gare juste pour lire les tableaux d'affichage, oui, je pense que vous allez vous ennuyer. Bon, à l'époque, le changement était mécanique, c'était un peu intéressant. Mais maintenant, c'est digital, alors. Donc, si vous allez juste pour lire ces détails, ça, c'est vrai que ça... Ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous lisez les tableaux d'affichage à la gare pour ensuite prendre le train qui vous amène au ski, ces jours-ci, là, c'est différent. En fait, vous allez même lire avec un certain intérêt, une certaine attente, une certaine passion. Quand est-ce que mon train est affiché? Est-ce que mon train est à l'heure? Est-ce que mon train est en retard? Et dès qu'il s'affiche, vous courez OK. Et donc, là, il y a une vérité actionnable qui vous intéresse et puis vous partez au ski. Et le but n'est pas en soi l'affichage, le but c'est la manière que vous allez ensuite agir. Et la lecture de la Bible, c'est pareil, même ces textes-là. Ce qui va vous aider à avoir une lecture passionnante de la Bible, c'est de garder en tête le pourquoi actionnable. Donc c'est toujours une bonne question, pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce livre et pourquoi l'auteur a écrit ce texte et qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que les premiers lecteurs auraient compris et comment ça peut m'aider, moi, à agir? Donc, on revient à 1 Chronique 26, un passage un peu ennuyeux de premier abord, mais déjà on a vu qu'il y a des richesses. Et puis la question, mais pourquoi ces choses ont été écrites à l'époque? Et on apprend qu'en fait, 1 Chronique a été écrit après l'exil, pour le peuple qui est en exil, le temple qui est décrit et maintenant détruit, mais Dieu est en train de restaurer, de ramener son peuple. Et ils vont devoir reconstruire un temple, remettre en place tout le culte et l'organisation de culte. Et donc là, ils ont en quelque sorte des indications et des promesses. Dieu a béni David, par exemple, et lorsqu'ils étaient fidèles pour construire le temple. Et David a mis en place toutes ces fonctions, tous ces rôles. Et Dieu les a bénis. Et nous, si on revient dans notre pays, on reconstruit le temple, on fait attention à la parole, comment faire, bien Dieu va nous bénir. Et donc déjà, c'est une vérité actionnable qui les encourage. Dieu sera avec nous en revenant de l'exil. Et puis nous, ici, à notre époque, c'est encore un peu différent. Nous n'avons pas un temple physique à reconstruire, mais nous pouvons trouver aussi des encouragements en se disant, voilà, Dieu a mis en place une organisation sage pour son peuple, pour faire fonctionner le temple, et il les a bénis dans la mesure qu'ils étaient fidèles à sa parole. Et nous, à notre époque, nous voulons aussi regarder sa parole pour savoir comment organiser notre Église, comment vivre, et plus on est fidèle à sa parole, plus il sera avec nous, il va nous bénir. Et donc nous aussi, nous pouvons vivre des assemblées générales passionnantes, par exemple, lorsqu'on est attaché à sa parole. Donc vous voyez, tout ça, ça change un peu notre manière de lire et on découvre qu'il y a, voilà, il y a des histoires passionnantes. Et même les passages moins passionnants peuvent nous motiver à vivre une foi passionnante. Donc oui, la Bible est remplie d'histoires passionnantes. Ce n'est pas vraiment un livre ennuyeux. J'aimerais aussi dire qu'une deuxième raison, c'est que la Bible est l'inspiration principale des plus grandes œuvres d'art. Vous savez, on peut mesurer la qualité d'un ouvrage en regardant le nombre d'autres ouvrages qui s'en inspirent, ou d'autres artistes qui cherchent à imiter. Par exemple, sur YouTube, la réussite d'un chant se mesure par le nombre de vues que génère ce chant, par exemple, mais aussi le nombre de reprises, de variations, d'autres compositions qui s'en inspirent. Donc c'est ça la qualité d'un grand artiste, c'est qu'il est apprécié, mais aussi il motive un peu toute la génération suivante des artistes. Et donc la Bible, si on veut juste mesurer la qualité de la Bible en tant qu'ouvrage, c'est de regarder, est-ce qu'elle a inspiré d'autres ouvrages? Est-ce qu'elle a inspiré d'autres artistes? Est-ce qu'elle a inspiré d'autres écrivains? Eh bien, je vous dis ce matin, je ne vous apprends rien, que la Bible est de loin, l'ouvrage qui a inspiré le plus d'art, au niveau littérature, au niveau architecture, au niveau sculpture, au niveau peinture, au niveau musique, au niveau cinéma. La Bible a inspiré tant d'artistes. Donc ça ne peut pas être si ennuyeux que ça. Ou si je le trouve ennuyeux, c'est peut-être moi le problème et pas la Bible. Vous savez, les plus grands écrivains de tous les temps, Victor Hugo en français, Shakespeare, Milton en anglais, Cervantes en espagnol, Dante en italien, Dostoïevski en russe, ils ont tous produit leurs œuvres en étant directement inspirés de la vision chrétienne et le monde entier reconnaît que ce sont eux qui ont généré les plus grands romans, les plus grands poèmes, les plus grands livres. Même en parlant des égouts, Victor Hugo s'inspire de la Bible. L'intestin du Léviathan, le Léviathan, c'est une référence biblique. Mais maintenant, je vous lis le dénouement. Donc, le dénouement de la meilleure scène du livre se passe dans ces égouts, j'en ai fait référence. Et voici, je vous lis l'extrait. C'est Marius qui parle à Cosette. « Et sais-tu ce qui m'a fait, Cosette ? Il m'a sauvé la vie, il s'est sacrifié, voilà l'homme, et à moi l'ingrat, à moi l'oublieux, à moi l'impitoyable, à moi le coupable. Cette barricade, cet égout, cette fournaise, ce cloaque, il a tout traversé pour moi, il m'a emporté à travers toutes les morts qu'il écartait de moi et qu'il acceptait pour lui tous les courages, toutes les vertus, tous les héroïsmes, toutes les saintetés, il les a. » Heureusement, la Bible n'est pas copyright, parce que le langage là vient directement de l'évangile, de la Bible, les saintetés. Il a toutes les morts, il les a pris pour lui, il a accepté pour lui pour me donner la vie. Ça, je pense que vous reconnaissez cette histoire là. C'est l'histoire de base que raconte la Bible et qui a ensuite inspiré tout ce qui est de mieux et de meilleur dans la littérature. Récemment, j'ai trouvé cette préface dans une édition de la traduction de Chateaubriand, du plus grand poème anglais de tous les temps, Le Paradis perdu, qui raconte l'histoire d'Adam et Ève. Et cette préface m'a interpellé. On trouverait que, sur le plan historique, le christianisme a été l'agent par lequel a été conservée une bonne part de la civilisation ayant survécu la chute de l'Empire romain, que l'Europe y doit la sauvegarde dans ces âges périlleux, de l'agriculture civilisée, de l'architecture, des lois et de la culture. Les arts tendent à se développer sous sa protection. Ça c'est un peu pour... Il y a la littérature, mais il y a l'architecture, la culture, idem pour la musique. On a parlé un peu de littérature, la musique c'est pareil. Cette semaine, j'ai rangé un livre sur une étagère et j'ai fait tomber une feuille de partition. Et j'ai dit, tiens, ça m'intéresse. Donc, c'était une partition de Bach, une petite page simple. Alors, je l'ai jouée, ça m'a fait plaisir. Et c'était cette musique-là. La musique s'appelle « Schafe können Seier wieden ». que les brebis paissent en paix. Alors, quand c'est chanté, à l'époque, c'était chanté avec des arias, tout ça, mais les paroles de ce chant, les brebis peuvent paître en toute sécurité là où un bon berger veille sur eux, là où les dirigeants gouvernent bien, se font ressentir la paix et le repos. Donc, Bach a décidé de mettre en musique cette idée d'un bon berger qui veille sur les brebis. Et vous connaissez la musique? La voici. Et en fait, si quelqu'un voulait écrire une musique qui parlait des brebis en paix, je ne sais pas si on ferait mieux que Bach. Hein. Voilà, cette musique a été reprise de maintes et maintes façons. Alors les jeunes, peut-être c'est pas votre truc, mais il en fait aussi en version guitare électrique. Bon, les brebis sont peut-être moins paisibles avec ça. Mais les brebis jeunes sont contentes. Alors, en tout cas, un bon berger. Mais voilà, c'est directement inspiré du psaume 23. Voici la signature de Bach. Donc, Bach est reconnu comme un des, voire le plus grand musicien de tous les temps. Voici sa signature. Il y a un peu... On voit qu'il était un peu créatif, mais Johann Sebastian Bach, donc il y a JSB, si vous le voyez, ajouté avec une image miroir. Donc, le voilà, Johann Sebastian S. Bach. Et puis il a juste fait le miroir dans l'autre. Donc ça, c'est Johann Sebastian Bach, sur lequel il a mis une couronne pour appeler « Je suis moi soumis à l'autorité du roi, à l'autorité de Jésus-Christ ». Et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc, littérature, musique, vous dites peut-être tout ça, c'est vieux, c'est lointain, dans les pays anglo-saxons encore, mais je cite un Toulousain, Jean Jaurès. La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines, c'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées et de la nature elle-même, la réconciliation du lion et de l'agneau paissant dans le même pâturage. Jean Jaurès. Vous savez, la force d'un ouvrage artistique, c'est d'interpréter l'expérience universelle de l'homme. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans l'art. Donc maintenant, la peinture. Il y a ce tableau très célèbre de Rembrandt, Christ dans la tempête. Il y a une histoire assez célèbre parce qu'elle a été volée récemment. Mais donc, elle est d'une très grande valeur. Mais donc, il dépeint la scène de Christ dans la tempête. Et ce qui est fort, c'est que quand il a peint, bon, ça c'est tout le tableau, je fais un zoom. Donc, quand il a peint, en fait, un disciple au milieu, c'est lui-même, c'est sa tête, c'est un autoportrait de Rembrandt. Et en plus, il nous regarde, nous, l'observateur. Et c'est un peu comme pour dire, et toi, comment aurais-tu réagi dans la tempête? Donc c'est une manière de nous interpeller. Il y a Christ, il y a une histoire, mais ce regard et le fait que lui-même se dessine un peu dans l'histoire, ça interpelle. Et c'est ça la force d'un ouvrage artistique, c'est qu'il nous met tous un peu dans la barque et il nous fait vivre cette tempête. Et est-ce qu'on aurait, nous, probablement la même réaction des disciples, l'inquiétude? Et je trouve quand on se laisse interpeller par les récits bibliques, quand on vit le récit comme eux et le vivaient, là encore, la Bible est loin d'être ennuyeuse. Bien sûr, cela ne veut pas dire que chaque fois qu'on lit un passage, il faut s'associer ou imiter directement la personne, chaque personnage de la Bible. Hein. Salomon a eu 700 femmes et moi, je peux, non. David a tué le géant et moi, je dois, peut-être je suis plus comme l'armée en peur et il faut laisser le capitaine, le roi berger aller à ma place. Jésus a marché sur les eaux, est-ce que moi, je devrais marcher sur les eaux? Je ne sais pas. Mais Mais dans toutes ces histoires, la force de la Bible, c'est en fait de raconter l'expérience universelle de nous, le cœur humain. Et après, on se retrouve. Donc, en lisant la Bible, on peut poser déjà la question pourquoi l'auteur a écrit cela. D'autres questions, qu'est-ce que ça m'apprend sur Dieu? Un Dieu qui ne change pas, le Dieu puissant, le Dieu fidèle, le Dieu qui délivre. Qu'est-ce que ça m'apprend sur l'homme? C'est souvent, quand on lit un passage de la Bible, qu'il faut s'associer plutôt aux personnes qui sont qui se comportent le moins bien que les personnes qui se portent super bien. En général, ça c'est Jésus, et nous, c'est nous qui souvent sommes remplis de peur, ou d'angoisse, ou d'amertume, ou de péché. Et là, on se retrouve. Mais qu'est-ce que ça m'apprend sur mon cœur? Et puis, qu'est-ce que ça m'apprend sur la foi, sur le salut, sur la délivrance, sur Jésus-Christ? Ces questions-là aussi peuvent nous aider à rendre plus vivant notre lecture de la Bible. Et sachez, comme toutes les grandes œuvres d'art, il y a toujours plus à découvrir. C'est ça aussi la richesse de la Bible. Après un jour au Louvre, vous ne sortez pas en disant « Tout ça, je connais déjà, c'est bon ». Ben, c'est pareil avec la Bible. Les richesses de la parole sont inépuisables. J'aime bien ce psaume 119, verset 96. « Je vois des bornes, tout ce qui est parfait, mais tes commandements n'ont point de limite. » Voilà, pour le 30 mai, je viens de vous aider un peu. Ce jour-là, vous allez lire 172 versets ou quelque chose. On prend un peu de l'avance ce matin. Mais c'est cette belle vérité. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, mais tes commandements n'ont point de limite. Il y a une richesse inépuisable, sans limite, dans la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais fini à épuiser ces richesses. Donc, lisez, et puis relisez, et puis relisez. Une partie aide à comprendre une autre. Genèse vous aide à comprendre l'Apocalypse. L'Apocalypse vous aide à comprendre la Genèse. On dit que la Bible, c'est ça, c'est intéressant, la Bible, c'est... j'ai plus l'image. La Bible, c'est le premier texte hyper lié, c'est-à-dire comme des hyperliens, des liens sur Internet. Avant, c'était souligné en bleu, mais maintenant, c'est toutes sortes de liens. Mais en fait, la Bible, c'est le premier texte qui se réfère de manière complexe à l'ensemble de sa structure dans une vaste série d'interconnexions internes. Pensez un peu à Wikipédia. Tous les articles se réfèrent et s'interconnectent les uns les autres pour créer un vaste réseau de connaissances. La Bible, c'est pareil, mais bien avant Wikipédia. L'ensemble de sa Bible fait référence à d'autres parties de la Bible. Et plus que vous voyez ces connexions et ces références, plus votre lecture est intéressante et passionnante parce que vous voyez, il y a une cohérence, il y a une unité, il y a des richesses à découvrir. Et ça, il faut toute une vie pour découvrir tout cela. Donc oui, la Bible est loin d'être un livre ennuyeux parce qu'elle a inspiré les plus grandes œuvres d'art. Et enfin, je termine avec cette vérité. La Bible raconte la plus grande histoire d'amour. Et pour cela, elle n'est pas un livre ennuyeux. Si la Bible était surtout une liste de règles religieuses, ou même un manuel IKEA pour construire sa vie, là, oui, ce serait ennuyeux, en tout cas, de relire. Vous lisez un manuel IKEA une fois, mais vous ne gardez pas ça toute votre vie. Ou le code civil, si vous êtes étudiant en droit, vous voyez, c'est nécessaire, mais c'est pas forcément passionnant comme lecture. Une recette de cuisine. Ce qui est passionnant, c'est de manger la recette, mais manger le produit de la recette. Mais la recette elle-même... Alors, si la Bible n'était que juste une recette de vie ou un code civil ou un manuel, on est d'accord, ce ne serait pas très intéressant. Et les autres religions fonctionnent comme ça. Mais la Bible n'est pas ça. La Bible, c'est une histoire d'amour. L'amour de Dieu en Jésus pour son peuple. Et toute la Bible raconte cette histoire d'amour. Toute la Bible est une lettre d'amour à son peuple pour les gagner à Christ. Vous savez comment se termine la Bible? Apocalypse 19, 20, 21, ces chapitres-là, les derniers chapitres de la Bible, vous savez comment ça termine? Ça termine avec un chevalier glorieux, avec son épée, qui arrive sur un cheval blanc, qui vient tuer le dragon, qui secourt et épouse la princesse pour ensuite conduire à des noces éternelles. Ça, c'est la fin de la Bible. C'est l'histoire de la Bible. Le chevalier arrive avec son épée sur un cheval blanc, tue le dragon, sauve la princesse et l'épouse. Ça, c'est l'histoire de la Bible. Ça, c'est l'histoire qu'il nous propose à vivre. C'est le grand message de la Bible. Jésus sauve. Et toute la Bible raconte ce sauveur Jésus et comment il veut sauver, comment il sauve son peuple pour faire de ce peuple ça, son épouse chérie. Ça. Et l'enjeu très actuel, qui n'a rien d'ennuyeux, c'est le choix qui s'offre à chacun de nous encore ce matin. Est-ce que je vais suivre le dragon et ses mensonges, ses alliés, ou est-ce que je vais attendre, je vais suivre le roi des rois et sa vérité et recevoir son amour? Un des mensonges du diable, c'est que la Bible est un livre ennuyeux, qui est compliqué, qui vous concerne pas aujourd'hui. Alors la vérité, Jésus l'a dit, je l'ai écrit pour te gagner, pour t'attirer à moi, pour t'inclure dans cette histoire où tu es sauvé, tu es délivré, tu fais partie de l'épouse, tu es aimé. Et ça, vous voyez, le grand intérêt de lire la Bible, c'est que vous pouvez découvrir Jésus. Donc, effectivement, c'est pas le papier en lui-même qui est passionnant, c'est le message, c'est la personne qui vous découvrez. Il y a ces deux disciples de Jésus, après l'avoir vu ressuscité, donc ils marchent sur le chemin d'Emmaüs, et voici ce qu'ils disent après l'avoir vu ressuscité. Ils disent en Luc 24, 32, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, la Bible ?» Et ce qui est beau dans ce passage, c'est que même ces disciples qui ont vu Jésus ressuscité, ils ont dit que ce qui les a vraiment chauffés de cœur, ce qui les a vraiment passionnés, ce qui les a vraiment émerveillés, c'était de comprendre que les Écritures parlaient de Jésus. Et ils ont dit, notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures, l'Ancien Testament, et qu'il nous montrait que ça parlait de lui. Et ils ont dit ça, c'est passionnant, de découvrir dans la Bible Jésus, qui est l'amour incarné, qui est la beauté incarnée, qui est la bonté incarnée, qui est la vérité incarnée, qui est la bonne nouvelle incarnée. Ça, c'est ça la Bible. Alors oui, lisez la Bible, lisez ces histoires passionnantes, lisez ces évangiles qui vous racontent la vie de Jésus-Christ, lisez ces épîtres qui nous montrent comment vivre cela en Église. Lisez sa poésie, comme dans les psaumes, pour apprendre à prier. Je termine avec cela dans la première édition française de la Bible. Donc, c'était Olivier Tan qui l'a traduit en français, Ancien et Nouveau Testament, à partir des langues originales. Donc, ils ont publié cette première Bible en français. Et c'est le cousin d'Olivier Tan qui a écrit la préface. Son cousin s'appelait Jean Calvin. Et donc, Jean Calvin, il écrit cette préface. Voici un extrait, c'est un des plus beaux passages en langue française, je trouve. Mais il écrit cet extrait pour encourager les lecteurs français à lire la Bible. Donc, il dit, « Or, puisque vous avez entendu que l'Évangile vous présente Jésus-Christ, en qui toutes les promesses et grâces de Dieu sont accomplies, et vous déclare qu'il a été envoyé du Père et descendu en terre, a conversé avec les hommes, a parfait tout ce qui touchait à notre salut, il vous doit être très certain et très manifeste que les trésors du paradis vous y sont ouverts et les richesses de Dieu déployées et la vie éternelle révélée. Car ceci est la vie éternelle, connaître un seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. » Donc, lisez la Bible. Et nous prions pour terminer. Seigneur, nous avons prié ce matin que tu nous ouvres les yeux pour voir les merveilles de ta parole. Et ma prière, c'est que tu le fasses vraiment pour chacun de nous ici ce matin. Merci pour cette parole, merci pour les Écritures, merci pour l'histoire de la Bible. Nous te remercions de ce qu'elle est encore. Elle est encore vraie, elle est encore passionnante, elle nous interpelle encore aujourd'hui. 2000 ans après Jésus-Christ, ce qui témoigne de sa permanence, de sa véracité, aussi de ton amour, toi qui nous a créés, tu connais le langage de notre cœur et tu nous as adressé une parole qui correspond à nos plus grandes aspirations, de nos plus grands besoins, notre besoin d'être sauvé, d'être aimé, et tu l'as fait en Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons connaître ce Jésus, nous voulons connaître ta parole. Je te prie que chacun ici, ce matin, puisse se motiver pour la lecture de cette parole, mais plus encore, que chacun puisse repartir avec la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tu nous as donné ta Bible pour nous parler de Jésus-Christ. Et c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous aimons, c'est lui que nous attendons patiemment. Et nous te prions de nous aider, de nous garder. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen.